tu vu le lockout. On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town. C'est vendredi, on prend un coup, ça parle de boxe dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique. Ou bien les gars de Goom, si tu gardes pas tes mains, oh, tu risques de perdre le zoom. Ça parle des Gaumont, jusqu'à Lucas Klitschko, jusqu'à Charlot, des Clavel, jusqu'à Canelo. Get on art, le steak de Buckingham. La légende, le buzz qui m'écoute. As-tu vu le knockout? As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town.
En direct d'un salon de Rosemont, Montréal, ton podcast préféré, Laurent s'écoute parler, le podcast où tu apprends des choses, le podcast où je te jase ça pendant 45 minutes gratuitement, puis ça te met un sourire d'en face. Là, cette semaine, j'ai essayé un nouveau truc pour le podcast, OK? Je me suis couché à 4 heures du matin, je me suis levé à 7, j'ai fait 45 minutes de recherche, et là, je fais ton podcast avec moins de 3 heures de sommeil dans le corps. Mais je me suis dit, je vais tout donner intellectuellement dans ce podcast-là, et après ça, je vais m'effouérer et tomber complètement. Un peu comme la poune qui était courbaturée, qui avait mal partout. Puis quand elle montait sur scène, elle se déliait, elle vous donnait un show. Puis après ça, ben, elle s'écroulait. Tu sais, c'était comme ça que les choses fonctionnaient. Donc, en direct de ton podcast préféré, grosse semaine où j'ai beaucoup travaillé. J'écoute beaucoup le hockey de la Ligue nationale. Et là, je voudrais me plaindre publiquement avant que ça commence. Le Canadien va repêcher Shane Wright. Mais le Canadien a su qu'il allait repêcher Shane Wright le 10 mai. Le repêchage a lieu le 18 juillet, je pense. On n'est pas sorti de l'auberge d'entendre parler faut-tu repêcher Shane Wright ou pas? Parce que les journalistes là, sont payés pendant l'été. Là, ils sont pognés pour faire remplir leur page. T'sais. Comment ils vont remplir ça, ces pages-là? Ben, ils vont te remplir ça avec faut-il échanger le choix de première ronde? Faut-il reculer d'un rang? Faut-il reculer de deux rangs? Faut-il aller chercher Pierre-Luc Dubois pour le premier? Faut-il aller chercher Alexis Lafrenière? Ça va être effrayant. Alors que tout le monde sait que c'est une ligue où il y a un plafond salarial. Fait que tu repêches le jeune, right? À la limite, tu laisses une autre année d'ingénieur, puis tu profites de son contrat d'entrée qui est moins cher pour être capable de signer tes joueurs, puis tout ça. C'était ton podcast du Canadien de Montréal en direct d'un podcast de boxe. Sinon, je vous raconte quelque chose, mais ma vie là, commence à moins bien aller. Ben, je suis l'unique responsable, OK? J'ai décidé, quand j'étais jeune, de ne pas m'acheter d'auto, de ne pas aller chercher mon permis de conduire pour ne pas être tenté d'acheter une auto. Puis là, j'allais travailler en autobus. Première année, ça prenait 45 minutes me rendre, 52 minutes à revenir. Je lisais des archis parce qu'on n'avait pas de cellulaire. Ça fait tellement longtemps que je travaille. Puis la vie était belle. Là, c'est rendu que ça me prend plus d'une heure pour y aller. Puis des fois, 1h45 revenait à cause de la 40. Fait que là, je me ramasse que mon plan n'a pas fonctionné. Je pars à 5h30 le matin, je reviens des fois à 5h30 le soir, j'ai travaillé 8h. J'aurais eu le temps d'aller deux fois à Sherbrooke. Ça vient de s'écrouler. Puis, ceux qui sont au courant, moi, je travaille au bureau de poste. Je pense que j'ai le droit de le dire. De toute façon, j'adore travailler là-bas. C'est une compagnie sérieuse, consciencieuse, professionnelle. Et je ne peux plus appliquer comme dans les bureaux de poste de quartier. Là, ils ont centralisé beaucoup les succursales. Je ne peux pas aller travailler maçon 13e comme j'aurais voulu faire avant. Fait que là, je suis comme pris dans l'heure 45 d'autobus. J'ai pas mon permis de conduire. Je suis vraiment une bibitte différente des autres. T'sais. Pas de permis. J'habite en haut chez mes parents. Mais ça me permet en tout cas, je vais vous dire une affaire, la vie coûte pas cher. T'sais. Le monde se plaigne de l'inflation. Une pause d'autobus, puis tu loues le haut de triplex à tes parents en restant très gentil puis poli à Noël. Puis ça te permet certaines économies. Cette semaine, j'ai mon bon ami Romain qui est venu à la maison. Romain, un jeune enfant qui vient d'avoir 7 ans, rêvait de faire une apparition sur le podcast pour pouvoir raconter ça à ses jeunes amis à l'école qu'il est en train de devenir une superstar. Fait que je vous fais jouer ça tout de suite. Romain qui nous parle de sa relation avec Laurent S'écoute parler.
Bonjour, ici Romain, j'ai 7 ans et je fréquente l'école Sainte-Anne. Mes émissions préférées sont les Pokémon et les Cités d'or. En troisième position, j'écoute Laurent S'écoute parler.
Incroyable, hein, les enfants. Je demande à ce jeune Romain qui veut faire une publicité avec moi, c'est quoi ton émission préférée? Là, je commence à me gonfler le torse. Il me répond les Pokémon. Je pensais que c'était. Laurent S'écoute parler, le podcast. Hier soir, on a eu. Et il faut que je vous raconte ça. J'étais allé chez mon bon ami Jonathan Géria, celui qui commande tous les pay-per-view. Puis là, j'avais convaincu. Puis là, je voulais pas qu'on se perde à changer de poste puis tout. Je me suis dit, on va se concentrer sur un seul gala. Puis nous autres, on a cet âge-là d'écouter les groupes de rap qui s'appellent Cypress Hill puis Onyx qui faisaient des performances. Fait qu'on s'installe sur la terrasse. Il devait faire à peu près 184 degrés à l'ombre hier. Et là, c'était drôle parce qu'ils nous ont vraiment vendu ça gros. Il y avait les trois fils de Fernando Vargas. Mais tu sais, c'était big, là. Tu sais, Emiliano marche vers le ring. Il décapite son adversaire, Marc Salgado. Mais là, t'avais juste le père qui était là. Là, après ça, t'avais Amando Vargas qui décapite Anel Dudo. Mais là, tu sais, Emiliano était dans le coin de son frère. Et là, ainsi de suite. Fait que t'avais de plus en plus de Vargas partout. Fernando père, il parle un peu comme s'il y avait eu une trachéotomie, je sais pas ce qui est arrivé. Il criait, à un moment donné, ils ont essayé d'y enlever, quasiment d'y calmer son micro. Fernando Vargas, le plus vieux, a gagné aussi contre Terrence Jarman. En tout cas, c'était vraiment, tu sais, c'est des adversaires de niveau un peu plus bas pour les faire bien paraître. Et là, ça déménageait dans le ring. Là. Fait que les trois frères Vargas, ils ont bien géré. Ils ont fait un show. Là, après ça, ils nous lancent en grande pompe Evan Holyfield. Lui, il a eu une belle carrière chez les amateurs. Il est 9-0. Il affrontait ce qu'on appelle un journeyman classique. Un gars qui s'appelle German McDonald, qui était 6-5. Et au deuxième round, McDonald a gelé. Pas propre, comme disent les jeunes. C'était pas propre. Evan Holyfield qui a dormi. S'il y avait une main comme dans le dos. Là, il a essayé de se relever, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, défaite de Evan Holyfield. On n'est pas le père qui veut. Après ça, et je vous le dis, ça avait aucun bon sens. Là. Je vous parle de ça. Kubrat Pulev et Jerry Forrest. Là, ils ont envoyé du rap, OK? Là, ça, c'était cool. On a bougé nos têtes, nous autres. Puis, on avait un bon ami qui était là, Gabriel Verrier. Gabriel Verrier, il parle sans arrêt. Fait que tu t'assois, t'écoutes Gab, tu regardes la boxe, tu sais. Fait que, je regardais ça, là. Jerry Forrest, il était pas capable de mettre ses mains dans les gants. Après ça, Pulev voulait pas se battre avec la paire de gants B. Ça a duré, je vous dirais, 1h20, 1h25. Pas capable de gérer les gants. Ils ont envoyé une chanteuse R&B. Ah, c'était bien le fun, là. Elle a chanté deux petites tunes. Ils ont envoyé un DJ nous spinner un set de DJ. Là, on est retourné en arrière. Pulev voulait pas embarquer dans les gants. Puis finalement, ben Pulev, il faut lui donner, là, il a fait une grande performance. Il avait pas l'air d'un gars de 41 ans. Forrest, quand il est reconnu pour être dangereux, il a causé beaucoup de troubles à des boxeurs, mais Pulev a eu aucun problème avec. Il était vraiment son physique, et 6 pieds 4, 2,48, 41 ans, il avait un physique quasiment emprunté à la jeune vingtaine. Grosse performance de Kubrat Pulev qui nous prouve qu'il mérite peut-être une dernière chance en championnat du monde avant de se retirer. Et son frère Tervel, qui lui avait une grosse réputation amateur, s'est fait battre par Sergei Kovalev au juge. Kovalev, des débuts à 200 livres, mais rien pour appeler vos familles. Appelez pas vos familles pour dire que Kovalev est rendu à 200 livres. Je vous l'annonce, là, ça marchera pas. Zunlung Zeng a battu Guillermo Casas en Ontario. Je ne sais pas pourquoi, mais Guillermo Casas, c'est un Mexicain, mais Zunlung Zeng, c'est un Chinois qui a décidé de venir vivre à Toronto, qui est 18-0. On parlera plus tard de l'autre combat qui m'intéressait sur la carte. Sinon, en France, Tony Yoka s'est fait surprendre par Martin Bacol, mais je vous le dis, là, c'était pas drôle. Genre. Au premier, tu sais, décision des juges qui a pas rapport, Bacol avait gagné possiblement par 10 points. Bacol pesait 215, on pensait qu'il était pas en forme, personne. Il se pointe là, bedding, bedding, garoche sur Yoka, contrôle avec le jab, plus fort physiquement. Yoka n'a jamais été dans le combat, du jamais vu. Et son petit frère, Victor Yoka, 5 pieds 8, 156 livres, a gagné au premier round contre Gourami Kurtanidze, 4-14-5. Donc, c'était la chronique France. Tony Yoka, j'ai hâte de voir, parce que c'est encore un gros nom. T'sais, ils vont leur partir. Moi, j'allais dire, ça fait 10 ans, puis tout, mais Yoka Simon Kane, le Québécois qui parle en gros Québécois, Simon Kane avec une patate dans la bouche, décodeur requis pour les Français. Là, tu me swings ça contre Yoka, la revanche des Jeux Olympiques. Punching Grace a besoin de stock. Ils achèteront la diffusion, je vous le dis. C'est très logique. Avenir Yildirim, qu'on a vu contre Canelo puis contre Schiller Hippolyte, avait un combat facile contre Youssouf Gangwell. Il s'est fait geler en partant au deuxième. Avenir Yildirim n'est plus l'ombre de lui-même. Il y avait un tournoi, tu sais, mes fameux tournois King of the Ring que je vous raconte. Là. Ils prennent 8 boxeurs, puis ça avance. Mais tiens-toi bien. Tiens-toi bien. Il y avait 7 combats. Là-dessus, Elis Zorro en a gagné 3. En tout cas, j'ai pas trop compris. J'arrive même pas à voir si le gagnant du tournoi, je pense, c'est Elis Zorro. Il y avait un jeune qui s'appelait Ricky Reeve. En tout cas, c'était chez les 200 livres. Tous des boxeurs un peu push dans des formats 3 rondes. J'ai écouté les combats de... J'ai écouté Ricky Reeve. J'ai écouté 2 combats de Zorro. J'ai pas réussi à tout écouter. En tout cas, c'était... J'aime bien ça, ce format-là. Tu sais, je pense, tenez-vous bien, je pense que je vais appeler Yann Pellerin, puis je vais lui demander si on a le droit d'organiser ce format-là. Puis je vais y trouver 660 livres, puis on va faire une soirée King of the Ring. Je dis, Yann, continue à gagner des sous. Moi, je vais m'occuper de les dépenser. Germaine Charlot a fait une grande performance contre Brian Carlos Castano. Mais ce Castano-là, il est bon, puis vous allez le revoir. C'est juste que là, Charlot l'a pincé au 10e round. C'était la revanche. Premier combat, c'était un match nul. J'aurais tendance à dire que c'est pas le combat de l'année, mais c'est un très, très bon combat. T'sais, s'il pleut aujourd'hui, vous n'avez rien à faire. Brian Carlos Castano, Germaine Charlot, la revanche. Le 10 rounds va passer sans que vous vous en rendiez trop compte. C'était très, très bon. Et Custio Clayton s'est fait geler au deuxième par Jaron Ennis. Coup légèrement derrière la tête qui fait capoter tout le monde, mais ce serait arrivé tôt ou tard. Jaron Ennis est beaucoup trop fort. Et ce qui me fait un peu de peine, c'est tous ces boxeurs-là qu'on apprend comme... qu'on nous vend, tu sais, que ce soit Baptiste Jukanbaev, Custio Clayton, je vous dirais Sébastien Bouchard, tu sais, Michael Zuski, Kevin Bizier, Jojo Dan, tu sais, on nous vend des boxeurs en se disant, ah, peut-être des futurs champions du monde, puis finalement, le mur arrive très vite, là. On le sent quand on n'est pas dans du A+, quand on n'est pas dans du Arthur Beterbiev ou Oscar Rivas ou Hélène Dair à une autre époque. On le sent rapidement et Clayton, ça vient de casser. Gilberto Ramirez a arrêté au 4e round Dominique Boswell. C'est quelqu'un, Ramirez, qui a un nom terrible derrière lui. Ça va, tôt ou tard, fonctionner puis il va avoir le combat qu'il veut. Ça, c'est ma prédiction. Alors, c'était les résultats d'hier. Et passons tout de suite, sans tambour ni trompette, au combat à surveiller la semaine prochaine et rester à l'écoute, car il y aura beaucoup de boxeurs québécois à surveiller la semaine prochaine. On commence ça. Il n'y a même pas de sous-carte d'annoncer sur BoxRec ou rien. Au White Sands, Heaven, Center, Plant City, Florida, USA. L'application s'appelle, je l'ai téléchargée, s'appelle Pro Boxer. Pro Box TV. Je l'ai même payé. J'ai payé honnêtement dans la légalité. Pro Box TV, ça coûte 1,49 US par mois et tu as accès à 3 galas de boxe par mois, dont leur première soirée qui est Fan Long Meng, l'ancien aspirant au numéro 1 à Arthur Beterbiev contre Jean-Pascal. Meng, c'est une espèce de Lucien Bouté, une réplique de Lucien Bouté, un Chinois de 34 ans surnommé Sang-Froid, gaucher, qui n'a pas énormément de gros boxeurs sur sa fiche, a battu Adam Dane, qu'on a vu contre Arthur Beterbiev, a battu Frank Buglioni par KO, a battu Brad Austin par décision, un gars durable. Sinon, il n'y a pas grand-chose sur sa fiche. Il vient de se débattre comme un diable dans l'eau bénite contre Israël Dufus. Pascal, je le sais pas, moi, après son inactivité, ses 4 stéroïdes dans l'épaule, toute la jasette, il va avoir la pression de performer sans stéroïdes pour montrer que c'était pas un vrai tricheur, qu'il a pas triché. Je vais vous le dire, Pascal a toujours excellé contre les gauchers. On se rappelle contre Chad Dawson. Il y a comme un style rentre-dedans qui le sert bien contre les gauchers. Je prévois une victoire par KO contre Jean-Pascal qui va pouvoir dire « Vous voyez, j'ai pas triché. Je viens de réussir tous les tests et je viens de knocker un des meilleurs boxeurs au monde. » C'est ma prédiction. On se déplace le lendemain. Samedi le 21 mai au complexe sportif Belle Brossard, Québec, Canada, où Yann Pellerin présente son premier gala. Il a déjà vendu 1000 billets. Je suis pas trop dur avec Pellerin. T'sais, c'est une première soirée. Il fait ça à la bonne franquette. Louis Jourdain va se battre dans un combat de boxe. L'adversaire est à être nommé. Big Ben Gallant. Big Ben Gallant va affronter Tom Vautour. Vautour 5-3, il avait affronté Finn quand il était en début de carrière. Il avait besoin d'un adversaire de remplacement. Vautour est courageux. Ben Gallant donne un show. Je vous l'annonce. Allez pas aux toilettes pendant Big Ben contre Tom Vautour. Samuel Lajoie-Déry va affronter José Gutiérrez-Bolanos. Bolanos, une fiche, une ronflante fiche de 1-3, mais avait brassé un peu Christopher Guerrero. Je pense qu'on cherche du côté à Lajoie-Déry, essayer d'établir sa valeur. Puis là, on va voir s'il y a une comparaison à faire avec Christophe Guerrero. Derek Pomerleau va affronter Darren Fletcher, qui n'est pas l'ancien receveur des Expos. Une victoire, 7 défaites, 2 combats nuls. Ainsi va des fois la boxe. Hubert Poulin, on lui cherche encore un adversaire. Peter Gavrilovic va affronter Eduardo Valencia Aguilar. 2 victoires, 5 défaites. A fait la limite avec Poulin. A fait la limite avec Pellerin. Fait que je pense que Pellerin est allé piger dans un de ses anciens adversaires pour voir ce que vaut Peter Gavrilovic. Kevin Manoche, 5-0, va affronter Daniel Roach, 2-0. Shaquille Finn fait un combat de retour contre Joaquin Murrieta Lucio, que, si ma mémoire est bonne, on a vu ici à Montréal contre Terry Ozias à l'Olympia. Pas un mauvais boxeur. Va falloir que Finn ait enlevé de la rouille, sinon il pourrait se faire jouer un petit tour. Et Alexis Barrière va affronter Abokan Bobke pour le titre canadien. Je serai présent, accompagné d'une jolie jeune fille de Québec, Soleil d'Aigle. Soleil, je ne sais pas s'il va pleuvoir là-bas, mais à côté de toi, il fait toujours chaud. Donc, c'est ma fin de semaine prochaine, je vais être là-bas, assister à ce gala. C'est la même soirée où David Lemieux affronte David Benavidez sur les écrans géants là-bas. Zan Kozobutski va affronter Johan Duopa en Allemagne. Zan Kozobutski est un prospect du même niveau que Arslanbek Makhmoudov. 16 KO en 17 combats pour le Kazakh. Mettez ça sur vos feuilles de route. Ce gars-là, c'est boxé. Au Nicaragua, Félix Alvarado continue sa carrière. Toujours, je sais pas, des fois, je me prends des notes sur ma feuille mobile. Puis, 3 heures de sommeil, ça donne ça. Ça parle. Ça fait que je vous parle de Félix Alvarado. Samedi le 21 mai en plein après-midi, on a une superbe carte de DAZN en Angleterre. DAZN essaie de me faire regretter de m'être désabonné. 5 combats que je qualifierais d'importance. Joshua Boitti va affronter Greg Richard. Richard, c'est lui qui a gagné plus de rondes contre Bivol que Canelo en le travaillant au corps. Il va affronter Boitti qui est littéralement exceptionnel. Boitti se positionne pour Bivol Beterbiev. En faisant un statement sur Greg Richard, il va encore plus le prouver. Alan Babic et Adam Balski vont s'affronter chez les 225 livres et le gagnant devient le deuxième aspirant obligatoire à Rivas après Lucas Rosanski. Alan Babic contre Rivas, c'est écrit dans le ciel, ça va arriver. Prenez ça en note. Robbie Davis Jr., qui est un des bons 135 livres en Angleterre, donne toujours un show, gagne ou perd, eux ils le ramènent. Il affronte Javier Molina. Chantel Cameron va affronter celle qui affronte tout le temps tout le monde, Victoria Noelia Bustos, dans un combat féminin, le championnat du monde. Elise Cotney va affronter Maria Cecilia Roman. Ça aussi, c'est intéressant. D'ailleurs, Anna Renkin a conservé son titre en Europe contre Alessandra Ayala, qui a affronté 2 fois Marie-Ève Dicker, et Ayala finit à l'hôpital et a nécessité une opération chirurgicale au cerveau. Ils nous disent que les choses vont mieux, mais que ça aurait pu être dramatique pour une fille qu'on a vue 2 fois ici contre Marie-Ève Dicker. David Benavidez contre David Lemieux la semaine prochaine pour le titre intérim des 168 livres. Benavidez, il est gros. Il est grand. Il frappe avec méchanceté puis il frappe souvent. Mais il n'est pas dur à trouver. Dans les premières rondes, Lemieux va pouvoir lancer des boulettes. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ça risque d'être très, très, très difficile pour Lemieux parce que là, il est pas devant des boxeurs que je dirais cérébraux comme Golovkin ou Saunders, tu sais, qui ont permis d'avancer un peu dans le combat. Puis eux, ils installaient leur domination doucement. Benavidez, s'il peut te sortir de tes souliers, il va le faire. Il est gros, il est grand, il frappe fort, il frappe souvent. Lemieux, on l'a vu contre Burzak, ça a été... Moi, je crois que Lemieux est un poids moyen avec une force de frappe exceptionnelle, mais un 168 livres avec une force de frappe bien ordinaire. Puis je pense qu'il est bien ordinaire à 168 livres. Si on regarde ce qu'il a fait contre Burzak, si on regarde, il est allé au tapis. Ça n'a pas compté, mais il est allé au tapis contre Francis Ntetu. Après ça, David Zegara avait l'air à cheval d'une chaloupe. C'est ses seules réalisations depuis décembre 19 chez 168 livres. Quand même chanceux de te retrouver en combat de championnat du monde après avoir volé Burzak, battu Ntetu, puis battu Zegara. T'es en championnat du monde. Je veux dire, on peut tous y aller en championnat du monde. C'était mon opinion. Donc, David Benavidez, je vous dirais KO autour du 6 ou 7e. Marc Ramsey va mettre fin aux hostilités. Un boxeur qui est rendu à 3 enfants est un boxeur qui accepte moins de corrections dans le ring, a une famille à élever. Zanibek Alim Kanouli va affronter Danny Dignum. Il a promis de l'arrêter. Le titre de la WBO intérimaire est en jeu. Zanibek Alim Kanouli est un animal, un gars qui lance. Si vous pouvez le voir, là, il lance son 1-2. Tu sais, c'est magistral. Là. C'est 1, le jab. 2, la main arrière pour te faire mal. Il se déplace, il se réinstalle. 1-2, le jab pour te faire mal. La main arrière pour t'endormir. C'est un gars qui a une science de boxe, mais qui a aussi une méchanceté, puis qui est aussi qui est frondeur. Il va le dire, je m'en viens t'arrêter. Je m'en viens te passer le KO. Je veux affronter Dimitrius Andrade tout de suite. C'est quelqu'un qui est volubile, quelqu'un qui n'a pas peur de se lancer dans les gros projets. Quand même une grosse fin de semaine. Hein. On a le droit à du Lemieux le vendredi soir. Une carte à Brossard, que moi j'ai mon application, fait que je peux tout écouter. Puis le lendemain, t'as David Lemieux. Non, t'as Pascal. Puis le lendemain, t'as le Brossard puis David Lemieux. Hey, maudit beau temps pour rigoler, ça. Moi, je vais tout écouter ça, puis ben, je vais triper comme d'habitude. Hier, j'ai trippé, je disais, beaucoup de bons combats dans l'après-midi aussi, Tony Yoka. Hier, je trouvais qu'il faisait bon vivre comme amateur de boxe. Rosemont, Laurence écoute parler, meilleur podcast. Laurence écoute parler, radotage, Kim Clavel les comptes, vapotage, des problèmes techniques, sabotage, accident 140, capotage, Claude Poirier, prise d'otage, Vincent Tremblay, reportage, Jean-Pascal, antidopage, blé d'Inde, épluchage. Ouais, j'ai découvert une application qui s'appelle RapFame, puis là, tu lis ton texte, puis là, eux autres, ils mettent un beat, puis là, ça fait comme un rap. Puis là, j'étais bien fier de mon du rap que j'ai composé, là, avec mon radotage. Puis là, je me suis dit, ben, je vais vous le partager. Puis moi, j'ai 40 ans maintenant. j'ai envie de vous parler de, j'ai envie de faire un rap pour y rigoler, je le fais. Je me censure plus. Je me suis assez censuré. J'ai assez essayé de plaire à tout le monde pour finir par plaire à personne. Que maintenant, je fais ce que je veux. Les nouvelles de la semaine. Jermall Charlot et Jaron Ennis sont les deux nouvelles têtes d'affiche de la boxe américaine. Sébastien Fondura, qui mesure 6 pieds 7, est déjà en discussion avec le clan Jermall Charlot pour avoir sa chance au titre. Sinon, Gilberto Zurdo Ramirez a parlé de Dimitri Bivol dans le ring après avoir débattu Dominic Boswell sur DAZN, un combat qui finira par arriver. Les répercussions sont dures en France sur Tony Yoka. Si ici on est très méchant avec Simon Cain, j'ai entendu des gens dire que c'était un boxeur local, d'autres que c'était un jambon. Je savais pas que les jambons allaient aux Jeux olympiques. On est dur avec Simon Cain. Les Français sont très durs avec Tony Yoka. Et là, je disais les gens dire la première fois qu'ils n'affrontent pas un chauffeur de taxi ou un conducteur d'autobus ou un livreur de pizza, il s'est ramassé battu. Il y avait un très bon adversaire avec Martin Bacol. Il pourrait, Yoka, se relever. C'est ma prédiction. Ben non, c'est pas ma prédiction. Selon Sean Porter, Canelo va gagner le rematch contre Bivol. Mais c'est un peu... On a toutes les versions. On a des versions qui disent que Bivol et Porter... Bivol et Canelo vont s'affronter en septembre prochain. Il y a d'autres rumeurs qui disent que Canelo va simplement passer son tour. Du côté de Bivol, il a déclaré que si Canelo passait son tour, il aimerait rentrer en négociation avec le clan Beterbiev et Joe Smith. Donc tout ça va être à surveiller. Du côté de Josh Taylor, il y a le Tartan Tornado a abandonné son titre WBA des 140 livres. Lui se dirige à 147 livres. Et là, c'est son. Il a refusé d'affronter son aspirant numéro 1, un dénommé Alberto Puello. Et là, on parle de peut-être Puello contre je sais pas qui. Puis c'est parce que Taylor a eu l'air d'un mort-vivant contre Jack Catterall la dernière fois qu'il a essayé de faire 140 livres dans un combat qui était très difficile. Oscar De La Hoya est sorti de sa boîte à surprise. On l'entendait plus bien parler. Et là, il a dit que Eddie Hearn était le pire des imbéciles d'avoir permis à son boxeur, Saúl Canelo Álvarez, d'affronter Dimitri Bivol. Daniel Scardina, faut que je parle de ça, Scardina affrontait le vieux routier Giovanni De Caroli. Scardina était favori à 16 contre 1 et De Caroli lui a sacré une moyenne volée. Ryan Garcia a de la peine parce que Isaac Cruz ne veut pas l'affronter. Jermall Charlot réitère qu'il affrontera David Benavidez en maximum fin 2023. Et André Ward, lui, propose que Canelo ait directement sur Dimitri Bivol lors du combat revanche. Et dans ça, c'est intéressant, hein? Floyd Mayweather était supposé se battre aux Émirats Arabes Unis avec une sous-carte quand même intéressante. Floyd a 45 ans. Puis là, tenez-vous bien, là, il y avait, la sous-carte, il y avait Bruno Machado, il y avait Anderson Silva, il y avait Badou Jack. Et là, le président des Émirats Arabes Unis est décédé. Et dans les règlements des Émirats Arabes Unis, c'est interdit de travailler les trois jours suivants le décès du président. C'est comme si, exemple, Justin Trudeau s'enfargeait avec une pinotte, puis là, il mourait étouffé. Tout de suite, on apprendrait que on peut rester 3 jours à la maison. Ce serait incroyable. Hein? C'est plate, ça marche pas comme ça. Pour l'histoire internationale, le président des Émirats Arabes Unis et émir d'Abu Dhabi, Khalifa Ben Zayed, est décédé ce 13 mai, a annoncé le ministère des Affaires présidentielles. Un deuil national de 40 jours se verra observé dans le pays. C'est son demi-frère qui va prendre la présidence et s'est interdit de travailler pendant 3 jours. Lui, ses affaires allaient bien, OK? Puis c'était l'homme, le deuxième homme le plus riche, ce qu'on appelle du coin là-bas, là, le golfe persique, je pense. Il y avait 20 milliards de dollars dans ses poches, mais il y a eu un gros accident vasculaire cérébral en 2014. Il avait prêté le pouvoir tranquillement, pas vite, à ses enfants. Mais savez-vous, qu'est-ce qui me fait rire avec lui? C'est que ce gars-là, qui valait 20 milliards, lui, il tripait sur la balle molle. Il investissait à travers le monde dans des ligues de balle molle. Ça m'a fait quand même rire. Et il avait acheté Manchester City en 2008. Avec son groupe. Donc, interdiction de travailler pendant 3 jours suite au décès de M. Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. Donc, vous me voyez ici quasiment en train de souhaiter que François Legault ou Justin Trudeau, pas rien de violent, là, une petite mort douce, je retournerai travailler juste jeudi, tu sais, peut-être, je sais pas. Mais... s'étouffer ou... je sais pas. Mais en même temps, je suis pas supposé dire ça, là. C'est vraiment juste pour le congé. Tu sais, j'ai rien contre ces gens-là. Donc, ça fait le tour des nouvelles en boxe professionnelle. Les choses à se rappeler. Jean Pascal, vendredi, sur Pro Box TV. David Lemieux. David Benavidez. Sur Punching Grace. Et sinon, ceux qui veulent, présentez-vous au complexe Brossard où on va avoir un gala à saveur locale avec New Era Management. Maintenant, avant de vous laisser, je dois vous parler de la carrière de ma combattante préférée, Martine Vallière-Bisson. Des fois, à la boxe, il y a qui tu bats qui est important. Il y a comment tu les bats. Et il y a aussi qu'est-ce que ces boxeurs-là font après. Quand Adonis Stevenson bat Andrés Fonfara, Fonfara ne fout plus rien après. Mais quand il bat Tony Bellew devient champion du monde, défend son titre 7 fois. On répète toujours, Adonis l'a arrêté, ce gars-là. La valeur d'Adonis monte parce que Tony Bellew va très bien. C'est comme ça la boxe. On regarde qui fait quoi après que tu l'aies battu. Martine Vallière-Bisson, présentement, est indépendante. 5-0. Elle a passé tous les tests qu'on a mis devant elle. Elle est allée au Mexique, on lui a donné Marie-Cruz Gomez-Soto. Elle l'a découpée en morceaux. Elle est à un point tel qu'elle est allée elle-même s'assurer que était correct, son adversaire, il a épongé le front puis tout. Cette fille-là vient de venir se boxer en Ontario, à Brampton, et elle a fait la limite contre Tanya Walters, qui a une grosse fiche chez les amateurs, et tout a très bien été. Gomez Soto n'a pas pensé proche de gagner les rondes, mais elle n'a jamais été embêtée par les coups d'un adversaire qui pesait 10 livres de plus que Martine Vallière-Bisson. Martine, elle a ouvert la machine, bading, badang, 35 secondes, c'était réglé. Okay. Après ça, Martine a donné une leçon de boxe à un adversaire qui s'appelait Lindsay Garbutt. Je sais où je m'en vais. C'est juste essayer de faire des intonations pour que mon discours soit meilleur. puis j'ai perdu le contrôle de ma propre intonation. Elle a affronté Lindsay Garbutt, une fille qui savait qu'elle allait se battre. Martine l'a pris le combat à l'extrême dernière minute, a coupé son poids de peine et de misère, puis elle a gagné toutes les maudites rondes contre Garbutt, une main attachée dans le dos. Okay? Mais facile. Garbutt s'était battu 9 fois en championnat du monde. Okay? Mais Garbutt, hier, elle affronte Tania Walters. À part par un point, elle aurait pu mériter un bien meilleur sort. Là, je veux pas m'emballer. Mais Martine, par ces comparables-là, on se rend rapidement compte qu'elle n'appartient plus au niveau national. Martine peut aller affronter n'importe quelle fille classée mondialement en Angleterre, en Suède, nommer le pays. Ça peut être Sky Nicholson qui veut son plus gros test en carrière. Il arrivera ce qui arrivera. Peut-être que Martine va se faire jouer un tour au juge, mais elle aura droit à un combat revanche puis à ses deux plus grosses bourses en carrière. Ou peut-être même qu'elle va la battre au juge. On est rendu à un temps où elle peut affronter n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Elle est en forme 7 jours sur 7. Il n'y a pas de problème. Si elle se fait appeler le mercredi, elle peut être là le dimanche. 21 repas de poisson par semaine. Et si vous êtes sur la rive sud, dans le coin de Chambly, Longueuil, La Prairie, Brossard, Ville-Sainte-Catherine, Candiac, et que vous voulez vous chercher un entraîneur privé pour apprendre la boxe ou simplement vous remettre en forme à un coût raisonnable avec quelqu'un qui saura vous faire dépasser vos limites, quelqu'un qui est agréable, gentil et drôle, et en plus, vous allez l'aider à réaliser ses rêves, qui sont de payer son loyer et de devenir championne du monde de boxe. Donc, si vous êtes sur la Rive-Sud, vous voulez vous entraîner, pensez à Martine Vallière-Bisson comme entraîneur privé. Avec Martine Vallière-Bisson, améliorez votre condition physique en un rien de temps. C'était ton podcast préféré. Laurent s'écoute parler. Ça tire à sa fin. 42 belles minutes. Canicule. On n'a pas vu ça depuis des années 1900. Une canicule enregistrée avant même le début de l'été. Donc, pluguez vos airs climatisés. Hydratez-vous. Achetez-vous des piscines. Et bonne boxe, mesdames et messieurs.
Mais que ce soit Johnny Gaudreau, que ce soit Hulk Hogan, que ce soit King Kong Bundy, n'importe qui, il faut que t'ailles le défendre. Ouais. Moi, honnêtement, les gars, moi, la semaine de congé, là, ça l'aurait calqué dans le derrière, pour dire ça.
La façon... Ben, moi, la façon... Il aurait fait la même chose.